Bonjour, c'est Anne-Laure Bonnet et vous écoutez Le Sacre, un podcast du Parisien. Chaque semaine, jusqu'à Paris 2024, un ou une médaillée d'or olympique retrace pour nous son chemin vers le sacre.
Voilà, ça y est, on n'y croyait plus. Il ne restait qu'une minute de combat et Angelo en a profité. Angelo Parisi est donc champion olympique pour la première fois.
Le 27 juillet 1980, à Moscou, alors en URSS, Angelo Parisi devient le premier champion olympique de judo français dans la catégorie reine des lourds. Né en Italie, il fait ses débuts dans le sport en Angleterre, avant de rejoindre la France par amour. Derrière cette triple culture, c'est bien sa passion du judo qui l'a mené au sacre olympique. Angelo Parisi, bonjour.
Bonjour.
Elle est rangée où, votre médaille d'or ?
Ma mère, elle avait une vitrine avec des tasses, des machins anglaises. Quand elle est partie, elle est morte il y a quelques années en arrière. J'ai décidé de faire cadeau de tous les tasses. Moi, je ne bois pas du thé anglais. J'ai fait cadeau de tous les tasses à une amie très chère en Italie. Et j'ai rempli la vitrine de toutes les médailles que j'ai.
Cette médaille, vous la regardez souvent ?
Oh, je peux le voir tous les jours, mais non, pas besoin. Le titre olympique, il est dans ma tête, donc je sais que je suis champion olympique. Et champion olympique, c'est quelque chose qu'on rêve d'être quand on est jeune. Quand j'ai vu les médailles olympiques à l'époque, je me suis dit, bon, un jour, j'aimerais bien être champion olympique, parce que c'est une fois tous les 4 ans.
Alors, vous êtes né le 3 janvier 1953 en Italie, à Arpino, entre Rome et Naples, mais vous avez 3 ans. Quand vos parents décident de partir s'installer à Bedford, en Angleterre.
Bedford, en Angleterre. À l'époque, mon père et ma mère, ils travaillaient tous les deux. Mon père, il travaillait dans les briques. Il fabriquait des briques. Après la guerre, évidemment, que les Anglais ont demandé...
C'était la reconstruction.
Ils ont fait entrer des immigrés, pour pouvoir fabriquer des briques. Et ma mère a travaillé dans une fabrique de chaussures. Je crois que mon père, il gagnait à l'époque 30 livres par semaine. Mm-hmm. Ça faisait...
Pas beaucoup,
100,
oui.
Ça faisait 100 livres par mois. Ma mère, elle gagnait un peu plus. Il gagnait pas grand-chose.
Elle est comment, la vie en Angleterre ? Vous avez des frères et sœurs ? Vous parlez italien, je sais pas, à la maison ?
Alors, comme on est arrivé là-bas, on avait 3 ans. Ma sœur, elle avait 4 ans et demi. Mon frère aîné, il avait 3 ans et quelques. Et mon petit frère, il avait 1 an et demi de moins que moi. Au départ, on parlait en italien. Mais dès qu'on a commencé à faire l'école, on parlait qu'en anglais à l'école. Et ce qui fait que mes parents nous parlaient en italien et nous, on répondait en anglais. Voilà.
C'est pour ça que Angelo Parisi, vous nous parlez aujourd'hui français. Vous êtes l'Italien qui parle français avec un accent anglais. C'est extraordinaire.
Ouais. Tu sais, c'est facile. Si j'avais appris le français jeune, j'aurais parlé parfaitement. J'aurais parlé les 3 langues. Mais bon, normalement, les Parisiens sont... Je pense qu'il y a 3 ou 4, 5 siècles en arrière, peut-être plus, les Parisiens sont venus de France. De Paris.
Oui, Parisi.
Ah ouais.
L'Angleterre, c'est aussi une terre de rugby, puis vous avez été champion d'Angleterre scolaire.
Oui, 2 fois. À mon époque, je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que à l'école, on pratiquait entre 14 et 15 heures de sport par semaine. On faisait de tout, on faisait de la danse, on faisait de la musique, tout ce qui concernait l'éducation, de la gym. Tous les mercredis après-midi, on allait dans un grand parc, à 10-15 kilomètres de l'école, et on passait toute l'après-midi à faire du sport. Là, c'est là où j'ai commencé le rugby.
Après le rugby, il y a le judo. Vous avez 15 ans quand vous décidez de vous concentrer sur le judo.
Alors, je commence le judo, mais je continue le rugby. Et cette année-là, on a eu des sélectionneurs de l'équipe de Londres qui sont venus voir la compétition de rugby. Et là, j'ai été sélectionné par une équipe de Londres. Et donc, pendant encore 6 mois, je faisais les deux. Je faisais...
Rugby à Londres et judo...
Rugby à Londres et le judo à l'école. Bon, ce qui est incroyable, c'est que Quand j'ai commencé le judo, j'ai progressé très vite, énormément vite. Comme moi, j'ai progressé vite, le professeur m'a donné la ceinture jaune. Donc là-dessus, on m'a demandé de faire une sélection pour représenter une équipe de Londres scolaire. Et donc, j'y vais. Donc, je participe dans une poule. On était 6 dans la poule. Et moi, j'étais ceinture jaune, je vais là-bas, il y avait tous les... En face, il y avait des ceintures vertes, des ceintures bleues.
Tout ça, c'est plus fort,
on précise. Normalement, c'est plus fort. Donc, je fais un combat, deux combats, et je gagne tous mes combats par hippon.
On explique peut-être le hippon, c'est le geste d'attaquant par excellence.
C'est un mouvement qui est parfait, où le partenaire s'envole dans les airs avec le déséquilibre, la vitesse, et quand il tombe par terre, il fait un grand boom.
Et le combat est fini.
Voilà, ça c'est le hippon. Ce qui fait que bon, je suis sélectionné dans l'équipe scolaire de Londres. Et ils ont pris le premier de chaque poule. Ils ont demandé d'aller nous entraîner au Budokwai.
Le Budokwai de Londres, c'est l'un des plus prestigieux clubs d'arts martiaux au monde. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre arrivée là-bas ?
Comme j'étais déjà grand, faisais 1m83.
Alors que vous aviez 15 ans ?
J'avais 15 ans, et je faisais 85 kilos. Tous les ceintures noires, ils m'ont massacré. Quand je suis sorti de là, je ne savais pas si j'allais retourner, honnêtement.
D'accord.
Jusqu'au jour, parce qu'il y avait un entraînement par semaine là-bas, et jusqu'à la veille, je ne savais pas si je retournais. Et après, à la fin, je me suis dit, non, je ne peux pas laisser passer ça. Je me suis dit, un jour, je vais leur donner ce qu'ils m'ont fait. Et c'est arrivé plus tôt que prévu.
Parce qu'en moins d'un an, vous êtes vous-même ceinture noire.
Ouais, tout à fait. On s'entraîne là-bas pendant un mois. Après un mois, je suis toujours ceinture jaune. On fait la sélection finale. On était à peu près une vingtaine. Donc, il fallait choisir une équipe de 5. Et donc, on se fait des rencontres. Et en finale, je fais match nul avec quelqu'un qui était bon, qui était ceinture marron, mais bien. Donc, c'était dur pour le faire tomber. Ce qui fait que, bon, je n'ai pas pu le faire tomber. Il ne m'a pas fait tomber. Donc, ils nous ont choisis tous les deux pour faire l'équipe. Et après, ils ont choisi les autres. Et 15 jours plus tard, on a fait le championnat d'Angleterre scolaire. Et j'ai battu des ceintures noires. Et oui. Et donc, on est champion d'Angleterre scolaire. Quelques semaines plus tard, ils m'ont demandé de monter en grade. Je passe ma ceinture verte. Je suis allé de jaune à verte. J'ai pas d'orange. Et donc... ils m'ont mis une ceinture bleue, ils m'ont mis une ceinture marron, et je les ai battus. Donc, ils m'ont donné la ceinture noire.
À partir de ce moment-là, vous, tout ce qui compte, c'est le judo dans votre vie ?
J'ai décidé à ce moment-là de ne faire que du judo. En rugby, j'étais un peu déçu parce que j'étais quelqu'un qui me donnait à fond. Quoi que je fasse, je me donne à fond. Et quand je voyais des feignants à côté et qui faisaient la moitié de ce que je faisais, ça m'a plus donné envie d'être dans l'équipe.
Donc il fallait un sport individuel.
Voilà, en judo, je pouvais que compter sur moi-même. Si je gagne, je gagne. Je perds. C'est ma faute, c'est personne d'autre.
Vous vous imposez rapidement dans toutes les compétitions auxquelles vous participez. Vous êtes champion d'Angleterre junior, puis espoir, puis senior. Vous décrochez 3 titres de champion d'Europe de suite entre 72 et 74. En 1972, d'ailleurs, ce titre vous ouvre les portes des Jeux Olympiques de Munich. Il se déroule du 26 août au 11 septembre, mais vous n'êtes pas sélectionné dans votre catégorie, qui serait les moins de 93 kilos. C'est David Starbrook qui est choisi. Vous, vous allez conquérir en toute catégorie. Qu'est-ce que ça vous fait ? Est-ce que c'est une faiblesse ?
Non, je pense que de toute façon, faire les Jeux Olympiques en toute catégorie, ça ne me dérangeait pas.
Même si vous étiez le plus léger, vous y alliez pour gagner ?
Non, moi, pas un problème. Non, je n'ai jamais eu peur de combattre.
Nous sommes le jeudi 31 août 1972. Vous participez à vos premiers Jeux. Vous avez à peine 19 ans. Racontez-nous cette expérience.
Donc, je vais là-bas et... là-bas, il y a des grands.
Oui, des grands.
Des grands. Et bon, J'ai gagné le premier combat, je gagne le deuxième, je gagne le troisième contre Rogers, un Canadien qui fait deuxième aux Jeux Olympiques de 64 à Tokyo. Et je le bats. Il faisait presque 2 mètres, il faisait son 45, 150 kilos. Il faisait.
Oui, à côté de vos 90 kilos à peu près à l'époque.
Et là, après, je rencontre Blondani en finale de tableau. Jean-Claude Blondani, lui, il était grand. C'était un bon combattant français. Le combat commence, il a fait une attaque, et je contre. Je fais Oranagi, il tombe sur le dos. Et l'erreur que je fais, c'est que, comme il était sur moi, je me suis mis en défense. J'aurais dû me relever. Au lieu d'être par terre, j'aurais dû me relever. Et là, il a fait une technique au sol et il m'a fait un étranglement avec les jambes. Ça s'appelle Sankaku. À l'époque, il y avait le système brésilien. C'est-à-dire, même si tu perdais, tu peux gagner.
D'accord.
Et donc, je vais de l'autre côté. L'autre côté, je rencontre celui qui gagne en finale de tableau de l'autre côté. Et vice-versa. Donc Blondani rencontre celui qui fait deuxième de l'autre côté. Alors, je rencontre le russe Kuznetsov. Kuznetsov, c'était un monstre. J'étais un bébé dans ses bras, hein, je t'assure. Quand je combats contre lui, et je me sentais si faible, vraiment faible. Hein. Il m'a pris dans les bras, il m'a jeté comme ça. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Il était fort, trop fort.
Vous réussissez à vous hisser jusqu'en demi-finale face au Canadien Douglas Rogers. Vous gagnez et vous remportez votre première médaille olympique. Elle est en bronze. Elle représente quoi pour vous, cette médaille ?
Ah, pour moi, c'était fabuleux. Déjà, le plus important pour moi, ce n'est pas la médaille d'or. C'est la façon de gagner.
Mm-hmm.
Pouvoir gagner en toute catégorie avec le poids que je faisais, personne n'aurait fait avant. Personne n'a été à médaille de bronze en toute catégorie en pesant 90 kilos, 91, 93 kilos. Personne n'a fait.
Ces Jeux de Munich, c'est une édition un petit peu particulière parce qu'il y a des événements extrasportifs. On parle d'un drame, la prise d'otage d'athlètes israéliens les 5 et 6 septembre 1972 par des membres de l'organisation palestinienne Septembre Noir.
Vers 5h30, 6h ce matin, un commando palestinien, fort de 5 à 10 hommes, a pénétré dans le village olympique en escaladant les grillages et les barrières. Quelques instants plus tard, le commando sortait des mitraillettes et peut-être des explosifs de leur sac de sport et attaquait le bâtiment de la délégation israélienne où logeaient 27 athlètes et entraîneurs.
C'était un moment triste, vraiment triste. Je pense que pour tous les sportifs qui étaient là, parce qu'on l'a pris le lendemain, on ne savait pas tout de suite. Le lendemain, on se lève et il y a le bâtiment entouré de policiers. Et là, on apprend que les terroristes, ils ont tué quelques-uns, ils ont pris en otage les Israéliens. Je pense que ça concernait tous les sportifs à ce moment-là. Et on voyait que tout le monde faisait, ils étaient pas bien. Normalement, les Jeux, c'est une fête. Donc, c'est une fête du sport. Les Jeux olympiques, c'est quelque chose de très grand. Et on ne pensait pas que ça allait arriver là. C'est une personne le pensait. Et c'est arrivé, voilà. Malheureusement, on avait affaire à des personnes qui, leur volonté était plus forte que le sport.
Quelques mois plus tard, vous affrontez David Starbrook, celui qui avait remporté la médaille d'argent à Munich dans votre catégorie en moins de 93 kilos. Vous l'affrontez lors d'un master.
Et là, dans ma catégorie, et là, je gagne en finale contre Starbuck par Ippon.
C'est un peu une médaille olympique, ça.
J'ai eu le plaisir de marquer un pion sur Starbuck pour montrer que j'aurais pu ramener la médaille d'or.
L'année suivante, vous rencontrez Caroline lors d'un stage à Avignon. Elle est championne de judo, elle aussi. Elle va devenir votre première épouse. Elle n'aime pas trop le climat anglais, donc vous allez, vous,
voilà,
changer de pays une nouvelle fois.
Voilà, tout à fait. Le problème, moi, je travaillais. Je travaillais tous les jours, moi. Et je rentrais tard. Après, j'allais au judo. 3 fois par semaine, j'allais au judo. Après, je rentrais.
Et donc, elle était un peu seule en Angleterre.
À mon avis, elle faisait une petite dépression.
Mm-hmm.
Donc, j'en ai retourné en France. Et là, et donc, dans le sud de la France, j'avais continué à combattre un peu avec les Anglais. Parce que je ne m'entraînais pas, hein, là-bas. à Avignon. Je m'entraînais dans un petit club deux fois par semaine. Et j'ai fait un peu de rugby, rugby 13 à Montpellier, à la Paillade.
D'accord.
Donc j'ai fait pendant un an, j'ai fait du rugby 13 pour faire garder un peu la forme. Et là-dessus, je fais les pré-championnats du monde en 74 à Vienne.
Mm-hmm. Toujours avec l'équipe de Grande-Bretagne.
Voilà. Et donc, et là, je perds, bon, je bats tout le monde, sauf le japonais Oremoa qui gagne par Yuko. Un Yuko, c'est 5 points.
Vous demandez la nationalité française et à partir de ce moment-là, vous commencez à concourir pour la France.
Déjà, j'avais contacté la fédération pour dire que j'habite en France et que j'avais demandé la nationalité française. Et donc, il m'a dit, OK, pas de problème, vous faites les départements, les régions, et dès que vous avez le passeport, vous pouvez faire les compétitions.
Vous êtes dans un club, donc, à partir de ce moment-là,
voilà,
de judo.
Voilà, je suis à Avignon, dans un club à Avignon. Mistral Judo, Avignon.
C'est joli, Mistral Judo.
Mistral Judo. Ah oui, le Mistral, évidemment, le bon. Et après, bon, il fallait que je monte à Paris. Donc, j'ai loué un appartement à Paris, je me suis installé et je m'entraînais à l'INSEP.
Et là, les entraînements, c'était à l'INSEP,
c'était
c'est sérieux.
Hein. Tous les jours.
Vous êtes à Paris, vous avez changé de pays, vous avez changé de culture, ouais. Vous avez changé de tout. Mais votre judo, il n'a pas changé?
Non, c'est unique. Personne ne fait ce que je fais.
Si je vous dis qu'il est élégant et romantique... Romantique dans le sens où c'est l'essence du judo, ce que vous pratiquez.
Quelqu'un m'a dit, j'étais un artiste dans le judo.
C'est assez vrai.
Oui, tout à fait. Quand je montais sur un tapis, la seule chose que j'avais en tête, pour moi, dans la tête, je ne perdais jamais. Moi, je faisais du sport pour le plaisir, uniquement.
Et la beauté du geste.
Oui, et la beauté du geste. Et tout ce que j'avais en tête, c'était marquer les ponts le plus facile possible, sans trop forcer.
On va revenir à votre arrivée en France. Les judokas français, ils vous ont accueilli comment? Parce qu'ils voyaient arriver un grand champion.
Ah, il y en a qui m'ont accueilli. Ben,
Jean-Luc Rouget, il était dans votre catégorie. Je ne sais pas comment il a pris le fait que vous arriviez, que vous pouviez potentiellement prendre sa place.
Oui, tout à fait. Mais bon, c'est comme ça. Les rivales, il y a des rivales. Pour moi, je n'avais pas de rivales. Je m'en foutais, réellement. Pour moi, tout ce qui m'intéressait, c'est faire de la compétition internationale. C'est tout ce qui m'intéressait.
Alors, quand on arrive aux Jeux Olympiques de Montréal, qui doivent avoir lieu en 1976, vous ne pouvez pas y participer, vous ne pouvez pas être au Canada, parce que la Grande-Bretagne s'y oppose. La Grande-Bretagne ne vous laisse pas participer à ces Jeux Olympiques.
Tout à fait. Mais parce que j'étais un concurrent pour eux.
Clairement.
C'est
parce qu'à l'époque, le pays d'origine pouvait
s'opposer.
J'aurais
pu gagner, hein, déjà à Montréal aussi. Oui, mais bah, pas grave. C'est pas important. Pour moi, ça entre dans la vie. Ça fait partie de la vie.
Encore une fois, c'est une vision romantique de la vie.
Oui, tout à fait. Dans la vie, il y a des choses qui sont magnifiques, qui t'arrivent, sont magnifiques. Il y a des choses. Il y a des hauts et des bas. Si on ne les accepte pas, on est malheureux toute sa vie. Ce n'est pas possible.
Et si on n'accepte pas les bas, on ne peut pas accepter les beaux, notamment ce beau haut. Le dimanche 15 mai 1977, nous sommes à Ludwigshafen en Allemagne de l'Ouest. C'est la finale des championnats d'Europe, toutes catégories.
Ouais.
Et vous affrontez l'Allemand Wolfgang Zugwerth. Vous remportez votre première médaille continentale pour la France. Objectivement, ça change quelque chose ou pour vous, c'est une médaille
Tu sais, dès le moment que j'ai pris la nationalité française, j'ai adopté la France. Comme
et
j'ai
la France
adopté
vous a
l'Angleterre.
Adopté, oui.
J'ai adopté l'Angleterre parce qu'ils m'ont appris le judo. Quand je suis venu en France, j'ai adopté la France.
Vous évoluez maintenant dans cette catégorie reine, dans la catégorie des lourds, les plus de 95 kilos. Donc, quand on imagine les Jeux, encore une fois, j'imagine que vous pensez à Moscou. Et vous y allez pour gagner, vous y allez pour la beauté du geste
fait,
et gagner.
Ouais. Alors, Moscou, c'est... Dans ma tête, je veux toujours gagner. Parce que avant chaque championnat, avant chaque combat, je passe un film dans ma tête où je suis en train de gagner, avec une technique. Ce que je fais souvent, c'est que je regarde l'athlète en face, celui que je vais rencontrer, et je m'imagine en train de le combattre. La façon qu'il se déplace, la façon qu'il attaque. Et ce qui me donne une idée, ce que je peux faire. Et dans ma tête, je me vois toujours gagner.
Alors justement, on y vient à ces Jeux Olympiques. C'est les Jeux Olympiques de Moscou. On est en 1980, c'est encore l'ex-URSS. On est de l'autre côté du rideau de fer. Vous avez une triple culture, vous avez une culture italienne, britannique, une culture française. L'ambiance, elle est différente. Vous êtes, si je peux me permettre, un gars de l'Ouest.
Oui.
Ça se sent pas au jeu ?
Si on veut combattre, si on veut être le meilleur de tout le monde, dans sa tête, il faut faire abstraction de tout ce qui se passe autour. Quand je combattais, je n'entendais pas le public. Je n'entendais pas. Surtout quand le combat était sérieux. Si tu commences à dire, tiens, lui me dit ça, j'ai même pas la peine de combattre. Quand on combat, c'est la concentration à 100%.
Donc vous n'êtes pas allé vous promener dans les rues de Moscou ?
Non, on était loin du centre. Non. Non, mais déjà pour sortir, c'était la croix et le banner. Et contrôle, tu vas là, contrôle.
L'ex-URSS. Dimanche 27 juillet 1980, stade Lénine de Moscou. Racontez-nous cette journée.
Donc on commence et donc on entre dans le stade plein. Le stade était plein.
Magnifique.
Oui.
Un stade Lénine plein à craquer.
Et donc premier combat, je marque Hippon. Je marque Hippon à tout le monde jusqu'à ce que j'arrive en finale.
Nous voyons effectivement Angelo Parisi pénétrer sur ce gymnase du stade Lénine pour disputer la première finale des compétitions de judo dans la catégorie des lourds.
Vous affrontez le bulgare Dimitar Zaprianov.
Le bulgare Zaprianov, qui est l'adversaire d'Angelo Parisi, il est à gauche maintenant. Zaprianov est un dangereux adversaire pour le français.
Il faisait 1m90, 92 à peu près. 145 kilos.
Mais je rappelle que vous en faisiez une centaine.
105. Lui, on attaque, rien du tout. On attaque, jamais j'étais en danger avec lui. Et par contre, lui, il cherchait que le contre. Lui, était très défensif. À un moment donné, je fais, sur un de ses attaques bidons, j'entre une technique et j'ai failli me faire contrer. Ah, il marque un Yuko.
Angelo le tient bien, son adversaire au sol, et là, il est contré sur une technique, un balayage arrière de Zaprianov. Et à ce moment-là, eh bien, Angelo Parisi n'est plus médaille d'or.
Ah, je me réveille un peu, j'ai dit non, ça va pas.
C'est pas possible.
Voilà, et je veux pas me faire battre par quelqu'un qui ne sait pas faire du dos.
Bien sûr.
Alors, j'ai commencé à bouger. 145 kilos, il fallait le bouger. Même si quelqu'un est très lourd, on ne peut pas le déplacer en poussant, en tirant. C'est difficile. La seule faiblesse d'un poids lourd, c'est tourner autour. Et ça, c'était ma force. C'est tourner autour des athlètes. Parce que quand tu tournes autour de lui, il est obligé de lever une jambe. Il lève une jambe pour me suivre. Et au moment qu'il se trouve sur une jambe, c'est là où il est le plus faible. Et à un moment donné, il se déplace dans le sens que je veux. Et je rentre comme un couteau dans du beurre. Et je passe en dessous et il passe au-dessus de la tête. Bam.
Voilà, ça y est, on n'y croyait plus. Il ne restait qu'une minute de combat et Angelo en a profité.
Et là, c'est Libon. Voilà.
Et vraiment, c'est une technique superbe. Voilà, Angelo Parisi, personne n'y croyait plus. Qui finalement, c'est ça le talent. Angelo Parisi est donc champion olympique pour la première fois.
D'un coup, toute la tension est descendue, je me suis vidé. Sur le coup, j'ai pas réalisé. Et après, le lendemain, j'ai réalisé, j'étais champion olympique.
Cette médaille olympique, remportée pour la France, quand vous l'avez autour du cou et qu'il y a la Marseillaise, vous ressentez quelque chose de particulier ?
Bien sûr, je combats pour la France, la Marseillaise, c'est devenu mon pays. La France m'a fait du bien. m'a donné les possibilités de travailler, m'a donné la possibilité de m'entraîner fort pour devenir champion olympique. Je suis reconnaissant. Voilà.
C'est la quête d'une vie, c'est le plus beau moment de votre carrière.
Tout à fait. Ouais, champion olympique, c'est le but que je voulais atteindre et je l'ai atteint.
Merci beaucoup, Angelo.
Avec grand plaisir.
Vous venez d'écouter Le Sacre, le podcast Jeux Olympiques du Parisien. 24 épisodes jusqu'à Paris 2024, à retrouver sur toutes les plateformes. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy, Ambre Rosala et Thibault Lambert. Il a été réalisé par Julien Moncouquiole. Si vous aimez Le Sacre, n'hésitez pas à vous abonner, nous laisser un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Et puis on vous invite à aller écouter les autres podcasts du Parisien, Code Source, l'actualité au quotidien, et Crime Story, chaque samedi.